Aujourd'hui, nous sommes en cette journée de retraite de Carême. Nous sommes le 12 mars et j'ai découvert que c'était une date importante pour la vie de l'Église. Figurez-vous que le 12 mars 1622, c'est-à-dire il y a exactement 400 ans, et il y a beaucoup de gens dans le monde qui fêtent cet anniversaire, il y a eu à Rome la canonisation de 5 saints, dont 4 qui ont été vraiment des phares dans l'histoire de l'Église. En effet, Grégoire XV a canonisé ce même jour, il y a 400 ans, saint Ignace de Loyola, saint François Xavier, donc ces deux fondateurs des Jésuites, sainte Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel, saint Philippe Néri, qui est une grande figure sacerdotale à Rome, donc à cette époque, et puis un cinquième saint, qui est saint Isidore l'agriculteur. Et je me suis dit, c'est bien aussi pour nous d'avoir ce saint Isidore en ce pays de la Mayenne, où il y a beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de liens avec l'agriculture. Je pense qu'il va veiller sur nous, et je me suis dit, pour notre journée de retraite, de conversion, pour ce temps de carême, on va s'inspirer de ces quatre saints, de ces cinq saints, puisqu'il y a donc saint Isidore aussi, moins connu, mais aussi présent avec nous. Parce que je pense que nous sommes dans un temps, le temps du carême, c'est vrai, mais aussi un temps plus large qui est un temps de mutation, de transformation du monde très important que nous vivons en ce moment, qui est quasiment un bouleversement de civilisation, qui est déjà en cours depuis quelque temps, avec la révolution numérique, par exemple, qui fait un peu que le monde est un grand village. Il y a des révolutions énormes qui sont en jeu, vous le savez bien, avec toutes ces évolutions que nous vivons. Et puis, on pourrait dire que la crise sanitaire du Covid, qui on pourrait dire en quelque sorte, qui semble, en tout cas, sinon s'arrêter, en marquer une pause vraiment désormais ces jours-ci, donc ça va faire 2 ans, puisque c'était mi-mars 2020 que ça a commencé. Donc là, donc je ne sais pas si vous savez, mais donc il va y avoir aussi la levée d'un certain nombre de... La plupart des règles sanitaires vont être levées à partir de lundi. Et donc dans les diocèses aussi, l'évêque nous a envoyé une petite lettre à ce sujet. Et donc ça nous rappelle que donc on est aussi donc dans cette période qui a bouleversé encore plus nos vies, période de transformation. Et de toute façon, le carême, c'est une période de transformation intérieure, de conversion. Demain, on va avoir l'évangile de la transfiguration, ce dimanche, deuxième dimanche de carême, transfiguration de Jésus. Et nous sommes en chemin de transformation, de transfiguration. Et donc, nous pouvons vivre cette journée de retraite comme une étape importante pour nous aider à vivre cette transformation. Alors, il y a deux axes que je voulais nous aider à vivre aujourd'hui dans cette transformation. C'est la conversion et la communion. La conversion, je voudrais voir avec vous les saints dont je vous ai parlé, quelle conversion ils ont eu dans leur vie et comment ça peut nous aider, nous, à vivre notre conversion. Parce que la vie des saints, elle est très éclairante pour nous aider nous-mêmes dans nos chemins de vie. Souvent, il y a des événements dans la vie des saints, de certains saints, qui sont vraiment des miroirs par rapport à notre vie. Donc je pense que chacun de nous, dans la vie de ces saints, il y a des choses qui peuvent nous toucher et qui peuvent nous aider à nous convertir. Et la communion. On a choisi de vivre aujourd'hui cette journée avec des paroissiens de nos 4 paroisses des Coëvrons. Et un des axes qu'il me semble important de vivre aujourd'hui, c'est la communion entre nous. Donc, on pourrait dire qu'il y a deux mouvements dans cette journée. Il y a un mouvement personnel pour nous retrouver nous-mêmes avec Dieu. Donc, profitez bien de cette journée pour prendre du temps pour vous. Parce que Dieu nous parle, il veut nous dire des choses dans le secret de nos cœurs, comme son fils Jésus qui est parti au désert pour se retrouver seul avec Dieu et affronter le diable. Eh bien, nous-mêmes, nous avons à nous retrouver nous-mêmes dans cette intimité, cette solitude. Donc, prenez des temps de solitude aujourd'hui. Et aussi des temps de communion, Donc il faut trouver le bon dosage. Mais vous savez, en fait, dans le monde, on est un peu, malheureusement, dans deux mouvements un peu contraires. C'est-à-dire qu'on est un peu dispersé, loin de l'essentiel de notre vie, parce qu'on est attiré par énormément de bruit, tous ces messages publicitaires, ces messages médiatiques qui nous dispersent, qui nous emmènent loin. Il y a une espèce de force centrifuge, c'est ça ? La centrifugeuse, c'est ce qui nous emmène loin. Et centripète, c'est ce qui nous ramène à l'intérieur. Centrifuge. On est un peu emmené loin. Et le carême, une journée de retraite, c'est un moment privilégié pour revenir à l'essentiel de notre vie. Et paradoxalement, donc, nous côtoyons beaucoup de personnes, mais en fait, nous ne sommes pas vraiment dans la communion et dans la charité. Elle est dans le placard. Ouais, il faut l'ouvrir. À mi-hauteur. Au fond à gauche, et avec un porte-clé jaune. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la clé de la salle d'Orion, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je voulais vous dire en fait que sorte qu'on a deux mouvements à vivre. Un mouvement qui nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes pour être dans l'intimité avec Dieu. Et on a un autre mouvement à vivre qui est un mouvement de charité, de communion. Parce que la crise du Covid, ça a créé, vous le savez, aussi beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude. Et encore, voilà, on a eu un petit événement, la dramatique à Évron, il y a quelques jours, qui était malheureusement voilà, une personne qui a mis fin à ses jours, une personne âgée. Et donc, c'est dramatique. Et ça nous dit aussi combien la crise du Covid, qui a eu des effets en fait, assez contrastés, il y a eu des bonnes choses. Parce que ça a mis ce monde à l'arrêt, ça nous obligeait à réfléchir. Mais il y a eu aussi des conséquences terribles d'isolement, de solitude. Donc, une journée comme aujourd'hui, il faut aussi que dans les moments de partage, vous en profitiez pour aller vers vos frères, pour partager. On a besoin de vivre la communion entre nous. Donc, voilà, je vous propose ces deux mouvements dans cette journée de retraite. Mouvement de conversion, donc de solitude avec Dieu, et aussi mouvement de communion avec les autres. Alors, mouvement de conversion. Le mouvement de conversion, je voudrais nous inspirer de ces saints qui ont été canonisés le 12 mars 1622, qui sont des géants de la sainteté. Savoir qu'à l'époque où ils ont été canonisés, en fait, donc c'est au début du XVIIe siècle, eux, ils ont vécu essentiellement au XVIe siècle, puisque vous avez Saint Ignace de Loyola. Il est né en 1491, il meurt en 1556. Saint François Xavier, 1506-1552. Sainte Thérèse d'Avila, 1515. Elle est née, comme Saint Philippe Néré, c'est facile à retenir, 1515, Marignan. Vous savez, la même année que la bataille de Marignan, il y a eu la naissance de Sainte Thérèse d'Avila et la naissance de Saint Philippe Néré. Eh bien, donc, ils ont vécu au XVIe siècle, tous ces saints. Et en fait, ils ont vécu un mouvement de conversion, de sainteté, qui a eu un rayonnement extraordinaire. Puisqu'ils ont, ils ont chacun contribué à fonder de nouveaux ordres religieux. Saint Ignace et Saint François Xavier, donc les jésuites, et Saint Thérèse d'Avila, la réforme du Carmel, et Saint Philippe Néri, l'oratoire. Et ces mouvements religieux, en particulier en Italie et en Espagne, au XVIe siècle, eh bien, ils vont avoir un rayonnement, un impact incroyable en France au XVIIe siècle. Parce que le XVIIe siècle, ça va être en France une période extraordinaire de sainteté. Donc avec Saint François de Sales, tous les saints de l'oratoire. Enfin, c'est un très très grand siècle de conversion. Il va y avoir une fondation considérable de Carmel, de fondation de jésuites et de l'oratoire au XVIIe siècle. Donc vous voyez que c'est intéressant de se rendre compte que des mouvements qui sont nés en Italie et en Espagne, vont avoir un rayonnement au XVIIe siècle incroyable en France. Donc nous aussi, ça peut nous dire qu'est-ce qu'on peut apprendre parfois aussi de ce qui se passe dans certaines paroisses à côté de chez nous. Peut-être qu'il y a des bonnes idées à prendre dans certains pays autour de nous. Et parce que parfois, on est un peu auto-centré et on n'accueille pas vraiment les initiatives qui ont lieu ailleurs. Eh bien, vous voyez comment des initiatives de sainteté au XVIe siècle en Italie et en Espagne ont eu un rayonnement incroyable dans le monde entier. Et depuis, vous savez, le nombre de personnes qui ont bénéficié finalement de la conversion, notre conversion, elle a forcément, un moment ou l'autre, une répercussion sur notre entourage. Dans nos paroisses, c'est vrai aussi. Nous, si nous nous convertissions pendant ce carême, eh bien, ça peut avoir vraiment un rayonnement sur notre entourage familial, paroissial, sur les gens qui vivent autour de nous, comme ça a été le cas de ces grands saints. Ils ont vécu une époque qui était assez florissante au niveau des découvertes et de l'art. Par exemple, à Rome, c'est Michel-Ange. Vous voyez, en même temps que ces grands saints, il y a eu des très grands artistes qui ont, par exemple, donc au niveau de l'architecture, au niveau de la peinture, au niveau de la musique, il y a eu un rayonnement extraordinaire. Par contre, au niveau des mœurs, il y avait une certaine décadence dans certains milieux de la société. Il y avait aussi de la corruption. Et c'est entre autres ce qui a, en fait, par exemple, suscité la naissance du protestantisme. Hein. Martin Luther, il a vécu aussi à la même époque. Il est contemporain. Hein. Il est né un petit peu avant Saint-Ignace de Loyola. Et donc, voyant aussi une certaine corruption, ça a aussi suscité une initiative de réforme de l'Église. Mais on peut voir aussi qu'il y a plusieurs manières de réformer. Il y a à vouloir réformer l'Église, mais la véritable réforme, c'est la sainteté. Et donc, on voit comment Ignace, François-Xavier, Thérèse d'Avila ou Philippe Néri, eux, ils vont prendre à bras-le-corps aussi cette question. Et elle va se concrétiser dans un concile qui va... Le concile de Trente, c'est un des très grands conciles de l'histoire de l'Église, qui va aussi mettre en œuvre un peu ces mouvements de réforme, de conversion de l'Église. De 1545 à 1563, il y a eu ce très grand concile, un concile de Trente. Hein, on pourrait dire que dans les grands conciles de l'histoire de l'Église, il y a eu, par exemple, le concile de Nicée au IVe siècle, qui est un très grand concile au niveau de la mise en forme de la foi des chrétiens. Le concile de Trente, qui est vraiment un très grand concile aussi dans cette réforme de l'Église. Et on pourrait citer le concile Vatican II, au XXe siècle, qui a aussi été un très grand concile dans des grandes étapes de mutation de la société. Eh bien, donc c'est pour vous montrer que c'était une période de créativité, mais aussi de besoin de sainteté. Eh bien, nous aussi, nous vivons à une période, en ce moment, où il y a besoin de saints. Donc, si ce n'est pas nous les saints, qui le sera ? Donc, il ne faut pas nous dire, faut pas laisser le travail à d'autres. Il faut nous dire que c'est vraiment chacun de nous, nous avons une sainteté à vivre, un chemin de sainteté personnel, singulier. Et parce que le monde a besoin. On dit, il y a un chant que vous connaissez peut-être qui dit le monde attend le passage des saints. Là, le monde aujourd'hui, il attend le passage des saints. Et il y en a sûrement déjà des saints parmi nous. Il y en a des saints autour de nous. Qui sont en train d'émerger et qui vont peut-être un peu, vous voyez, comme en cette période où ont vécu ces saints-là au XVIe siècle, il y avait besoin, ils ont senti aussi peut-être le besoin de faire resplendir la sainteté de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un monde qui est traversé par des forces, peut-être aussi qui peuvent une source d'inquiétude. Parce que vous pouvez porter un peu d'eau, s'il vous plaît. Donc, je trouve qu'on pourrait se dire le monde autour de nous va mal. C'est vrai qu'il y a on pourrait se dire qu'il y a des sources d'inquiétude par rapport à l'avenir de notre société, de notre monde. Mais en même temps, c'est aussi dans ces périodes-là que peut-être on est d'autant plus stimulé à se dire mais il faut un sursaut de sainteté. Bien sûr, sursaut de sainteté. Il est important que nous sentions qu'il nous revient aussi d'y participer. Alors, quelques exemples de conversion qu'ont vécu ces saints. Je suis allé reparcourir un peu leur vie. Et ça m'a vraiment enthousiasmé. Je vous laisse le soin peut-être d'y retourner aussi après la journée de retraite, parce que c'est formidable de voir... ce qui s'est passé dans leur vie. Merci, Don Philippe. Alors, un point commun, est-ce que vous connaissez un point commun entre Saint Ignace de Loyola et Sainte Thérèse d'Avila? Alors, c'est qu'ils étaient tous les deux d'une fratrie de 13 enfants. Ils étaient tous les deux d'une fratrie, donc ça c'est le contexte familial, je voudrais vous évoquer quelque chose autour de ça. Ils étaient tous les deux dans d'une grande fratrie. Alors, Ignace de Loyola, c'est le Benjamin de sa fratrie, le petit dernier. Et donc, il naît donc, voilà, en Espagne en 1491 et Thérèse d'Avila en 1515. Et dans ces, donc ils ont beaucoup de frères et sœurs, et ils vont perdre tous les deux leurs parents assez jeunes. Puisque Ignace, il a seulement 7 ans quand sa maman meurt. Et il va nouer une relation très forte avec son papa. Et il va le perdre à 15 ans. Donc ils vont perdre leurs parents assez jeunes. En tout cas, voilà, pour Ignace, il perd sa maman à 7 ans et son papa à 15 ans. Et Sainte Thérèse d'Avila également, elle est assez jeune quand elle perd sa maman. Elle a 12 ans. Et elle, la jeune Thérèse demande alors à la Vierge Marie de lui servir de mère. Tous les deux, ils vont être un peu passionnés par, on pourrait dire, la chevalerie, l'armée. Donc Saint Ignace, en 1517, il rentre dans l'armée du duc de Lara, de vice-roi de Navarre. Et donc il a mené d'abord une vie de cour, hein, il a été séduit aussi, enfin, il a mené cette vie de cour. Et il dit lui-même dans son autobiographie, jusqu'à la 26e année de ma vie, enfin de sa vie, parce qu'il écrit son autobiographie à troisième personne du singulier. La 26e année de sa vie, il fut un homme, comme les Mayennais disent « il ». Ils disent « il » pour parler des... Voilà, il dit « il » pour parler de lui. Il fut un homme adonné aux vanités du monde, et principalement, il se délectait dans l'exercice des armes. Donc voilà, il était passionné par la vie de cour, par le prestige des armes. Et Thérèse d'Avila, un peu aussi. Donc elle n'était pas elle-même dans l'armée, mais elle était passionnée par les romans de chevalerie. Et elle succombe un peu aussi elle-même au... Pas un peu, carrément, au passe-temps agréable des compagnies. Et donc ils vivent un petit peu tous les deux cette tentation dans un monde, dans un milieu familial où ils peuvent vivre les vanités du monde. Et en fait, ils vont l'un et l'autre être bien percutés par des événements qui vont donner un autre tournant à leur vie. Ignace, il va être blessé lors du siège de Pampelune en 1517. Il a 30 ans, il participe au siège de Pampelune, et il défend face aux troupes franco-navarraises, et submergé par le nombre, les Espagnols veulent se rendre, mais Ignace les exhorte à se battre, donc il était plein de feu, mais une jambe blessée et l'autre brisée par un boulet de canon, il est ramené à son château et opéré, mais sa jambe droite reste plus courte de plusieurs centimètres, et ce pour tout le restant de sa vie, l'empêchant définitivement de revenir dans l'armée espagnole. Durant sa convalescence, faute de trouver les célèbres romans de chevalerie de son temps, il lit de nombreux livres religieux, comme Une vie de Jésus ou La légende dorée de Jacques Voragine, richement illustrée, qui narre les faits et gestes des saints. Et dans un mélange de ferveur et d'anxiété, il voit en songe lui apparaître Notre-Dame avec le saint enfant Jésus. Il rejette sa vie passée et spécialement les choses de la chair. Et donc là, ça va être voilà, un tournant fondamental dans la vie d'Ignace, suite à cette blessure sur le champ de bataille, cette convalescence, cette lecture des livres, il va réfléchir au sens de sa vie. Donc moi, je me dis, pendant le temps du Covid, le confinement, et je le vois, a permis à pas mal de gens de réfléchir, de lire, de réfléchir au sens de leur vie et d'y voir aussi une opportunité de changer des choses dans leur vie, soit de changer peut-être à travers un appel à se rapprocher de Dieu. Moi, je peux constater que j'ai vu pas mal de personnes être attirées par la foi, par la vie religieuse. Il y a plusieurs catéchumènes qui ont frappé à la porte de nos paroisses assez jeunes suite à cette période aussi. Et donc, nous aussi, sachons prendre parfois les temps de convalescence, si nous en avons parfois. Nous avons des temps où nous sommes cloués sur notre lit. Nous avons du temps pour lire. Profitons-en, comme saint Ignace, pour réfléchir au sens de notre vie et peut-être laisser Dieu nous parler. Parfois, vraiment, Dieu se sert de ces temps-là, des temps de blessure, de convalescence, de lecture, pour nous parler. Et c'est ce qui va se passer pour la vie de saint Ignace. Et il va donc être, en fait, séduit par la vie des saints, un peu comme je l'ai été, moi, en relisant la vie de ces saints-là. Je vous avoue que ça m'a touché. Et il a été, il voulait faire vivre comme saint François d'Assise. Donc il va vouloir partir en pèlerinage en Terre Sainte. Ça a été, et convertir les musulmans. C'était une de ses idées. Voilà, bon, parfois on a des idées un peu, dans les mouvements de conversion, des grandes idées. Parfois, il va falloir ensuite, dans les temps qui suivent, ajuster le tir, nous rendre compte qu'est-ce que Dieu veut vraiment de nous. Mais voilà, laissons-nous aussi porter par des grands mouvements d'enthousiasme, comme ça a été le cas d'Ignace ou de Thérèse d'Avila, qui étaient des passionnés. Donc il va d'ailleurs, toute sa vie, garder quand même un enthousiasme particulier, Ignace, pour les pèlerinages. Nous avons vécu un pèlerinage à Pontmain. On est allé, pour pas mal d'entre nous, à Montlignon. Mais c'est des occasions privilégiées de conversion, les pèlerinages. Et Ignace y a vu, lui, un moyen de se convertir. Donc, après son rétablissement, il quitte en février 1522 la maison familiale pour rejoindre Jérusalem. Sur le chemin, il arrive au monastère bénédictin de Montserrat, près de Barcelone. Il se confesse à un père d'origine française, le père Chanon. Il passe 3 jours en prière. Et dans la nuit du 24 mars 1522, dans un geste de rupture avec sa vie ancienne de militaire, il accroche ses habits militaires et ses armes devant la statue de la Vierge Noire. Et c'est ainsi, vêtu d'un simple tissu, une espèce de soutane en toile avec une corde en guise de ceinture, qu'il veut reprendre la route de Barcelone. Mais meurtri par son voyage, ses blessures mal cicatrisées, l'ascèse, et certains diront bloqué par la peste qui sévit à Barcelone, d'autres pour éviter le cortège du nouveau pape Adrien VI qui se rend de Madrid à Rome, il passe plusieurs mois dans une grotte près de la ville de Manresa, en Catalogne, Manresa, où il pratique le plus rigoureux ascétisme. En fait, il va écrire, il va vivre lui-même donc un temps de solitude, de vie érémitique, et il va écrire déjà à ce moment-là, dans ses carnets, son chemin de conversion. Et donc en 1523, et ça va servir à ce qui va devenir les exercices spirituels qui sont encore pratiqués. Vous voyez, aujourd'hui, on peut se mettre dans les pas de saint Ignace de Loyola grâce aux exercices spirituels qui sont la mise par écrit de sa propre conversion et que l'on peut utiliser nous-mêmes aujourd'hui quand on veut se mettre dans les pas de saint Ignace. C'est un des moyens qui existent aujourd'hui dans le patrimoine de l'Église pour se convertir. On peut utiliser ce chemin qu'a vécu Ignace de Loyola. Donc certains parmi vous ont peut-être déjà vécu les exercices spirituels qu'on peut vivre sur 30 jours ou sur 5 jours. Donc grâce à cette conversion de saint Ignace. En fait, il va ensuite vouloir, il est assez persévérant ou têtu, je ne sais pas. En tout cas, il va aller jusqu'en Terre Sainte. Et donc il embarque pour aller en Terre Sainte en 1523. Et il est béni par le pape Adrien VI à Rome, et il passe par Venise, où en fait il reviendra plusieurs fois dans sa vie, il va aller à Venise, et c'est là que tous les premiers compagnons d'Ilias seront ordonnés, enfin lui et quelques autres seront ordonnés prêtres à Venise le 24 juin 1537. Quand on va à Venise, on peut aller dans les lieux où on pense qu'a eu lieu peut-être l'ordination d'Ignace de Loyola. Je dis quelques mots sur la conversion de Thérèse, qui se rapproche un petit peu de la conversion de saint Ignace de Loyola. Dans ce passage de la vie mondaine, de la passion pour les romans de chevalerie, à la prise de conscience un peu du sérieux de la vie, même si ça va être plus progressif chez Thérèse, parce qu'elle va, en fait, rentrer. C'est son père qui l'envoie au couvent à 16 ans, en 1531. Et elle va tomber gravement malade, elle aussi. Retournée chez son père, elle va faire une fugue pour rentrer au Carmel d'Avila en 1533 ou 1535. Et il va y rester 27 ans. Mais elle va mener une vie religieuse à l'époque dans un Carmel où, qui était assez ouvert. On pouvait recevoir du monde, on pouvait avoir une vie religieuse qui était mitigée, avec une vie mondaine en fait. Et ça va aussi quand même interpeller Thérèse d'Avila. Mais elle va vivre ça pendant 27 ans. Elle aura des problèmes de santé importants. Elle reste paralysée pendant plus de 2 ans. Aussi bien avant qu'après sa rechute, elle connut des souffrances, de grandes souffrances physiques. Et vers le milieu de l'année 1539, donc vous voyez tout ça, c'est 1539, c'est voilà, à peu près l'année où Ignace va être ordonné prêtre. Ils ont tous en fait vécu des chemins de sainteté à des années un peu concordantes. C'est assez intriguant de remarquer cela. Thérèse recouvre la santé, selon, elle précise, grâce à Saint Joseph, à qui donc elle attribue sa guérison. Avec la santé, reviennent les goûts mondains, faciles à satisfaire. Thérèse vit à nouveau au couvent et reçoit de fréquentes visites. Et selon elle, son esprit s'alanguit au point de lui faire abandonner la prière, 1541. Et un jour, par hasard, elle voit dans un oratoire une image du Christ souffrant. Je crois que c'est un Christ à la colonne, donc qui est représenté, attaché, les mains liées à la colonne. Et elle va être bouleversée. Ça provoque en elle une profonde émotion. Elle dira, c'était une représentation si vive de ce que notre Seigneur endura pour nous qu'en voyant le divin maître dans cet état, je me sentis profondément bouleversé. Au souvenir de l'ingratitude dont j'avais payé tant d'amour. Je fus saisi d'une si grande douleur qu'il me semblait sentir mon cœur se fendre. Elle décide alors de reprendre l'oraison et la lecture de Confession de saint Augustin l'encourage dans sa conversion. Donc vous voyez, il est touché, laissons-nous toucher, elle a été bouleversée par une représentation du Christ, elle va être bouleversée, elle va décider, il y a une décision, vous voyez, elle décide de reprendre l'oraison, et une lecture, elle va lire les Confessions de saint Augustin. Donc vous voyez, Ignace, il a été touché par la vie des saints, par saint François d'Assise, il va prendre une décision, il va vouloir aller à Jérusalem, et il va vivre aussi ces journées particulières de conversion. Ressentant des grâces spirituelles dans son oraison, Thérèse se confie à son confesseur pour savoir. Donc elle a des doutes, elle se dit, est-ce que ça vient du Dieu ou du démon? Elle était un peu dans le doute par rapport à ça. Et petit à petit, elle va découvrir, grâce à des confesseurs jésuites, qui étaient érudits, et ils vont l'aider à discerner. Parce que là, vous voyez, la grâce particulière des jésuites, ça va être le discernement. Ignace, au départ, il voulait discerner lui-même d'où venait l'émotion qu'il habitait. Et ensuite, ils vont faire des études, ils vont choisir les jésuites de faire des études poussées et sérieuses en théologie, en philosophie. Et en fait, ça va leur donner vraiment un savoir qui va aider, par exemple, Thérèse d'Avila à discerner. Parce que jusqu'à présent, ses confesseurs n'étaient pas suffisamment compétents. Et en fait, grâce aux jésuites, elle va avoir la réponse. Et ça va la confirmer dans ses intuitions. Et donc, c'est des confesseurs jésuites qui vont l'aider à voir clair. En 1555, les jésuites Juan de Padranos et Balthazar Alvarez fondent un collège à Avila. Donc, ils fondent ces coïncidences. Vont faire que les jésuites fondent un collège à Avila. Parmi ces jésuites, il y en a qui vont devenir les premiers confesseurs jésuites de Thérèse. Padranos devient le confesseur de Thérèse. L'année suivante, elle commence à ressentir des faveurs spirituelles intenses. Et peu après, 1557, elle se voit encouragée par saint François, saint François Borgia, qui lui confirme les faveurs spirituelles dont elle jouit viennent bien de Dieu et non du démon. Elle raconte ensuite, elle aussi, qu'elle a des apparitions. Elle a une vision de l'enfer en 1557. En 1559, elle prend pour confesseur Balthazar Alvarez, l'autre jésuite, qui va diriger sa conscience pendant 6 ans. Elle va recevoir de grandes faveurs célestes, parmi lesquelles la vision de Jésus ressuscité. En 1560, à l'époque, elle a 45 ans. À l'époque, c'est relativement âgé déjà, en fait, dans la trajectoire d'une vie, parce que la mortalité était plus jeune. Et donc, vous voyez, pour nous rendre compte, c'est au 1560, 1562, c'est à ce moment-là seulement qu'elle va mettre en œuvre la réforme du Carmel. Et pour vous donner une idée, c'est à cet âge-là que meurt Saint-François-Xavier, parce que je vais y venir, il a une autre trajectoire, mais Saint-François-Xavier, qui va être un missionnaire donc incroyable, on va en dire quelques mots, il meurt à 46 ans. Et c'est l'âge auquel Thérèse d'Avila, elle, va commencer à fonder le Carmel, la réforme du Carmel. Donc vous voyez, il n'y a pas d'âge. Je veux dire, les saints, certains ont une trajectoire fulgurante, très jeune, et d'autres, comme Thérèse d'Avila, vont attendre longtemps avant de vraiment prendre conscience de ce qu'elles doivent vivre et le pouvoir le mettre en œuvre. Donc ne nous inquiétons pas, nous, peut-être de notre... Peut-être nous dire, ça fait longtemps que je vivote dans ma vie, j'ai une vie un peu tiède. Ben, peut-être que le Seigneur, il permet ça, jusqu'au jour où il y a une phrase qui va vous toucher, une personne qui va avoir un rôle décisif dans votre existence, va être un déclencheur. Vous voyez, dans la vie des saints, il y a eu toutes sortes de trajectoires. Et donc, ne nous inquiétons pas de notre trajectoire à nous, parce que nous avons chacun un chemin singulier. Et voilà, j'ai trouvé ça saisissant de se rendre compte que à la même époque, à quelques années d'intervalle, Saint François-Xavier va mourir, en fait, en Chine, en arrivant en Chine. On va dire quelques mots, mais... Et au même âge, elle va commencer, Thérèse d'Avila, à fonder la réforme du Carmel. Et par contre, après, c'est impressionnant parce qu'elle a 47 ans exactement, en 62, quand elle fonde le premier couvent à Avila. Et elle va fonder 17 couvents de Carmel réformés, donc dans les provinces d'Espagne. Donc c'est incroyable. Elle va être ensuite dans une vie à la fois contemplative et active, incroyable, parce qu'elle a des faveurs mystiques. Elle va écrire un chemin spirituel qu'on peut trouver dans ses livres, comme saint Ignace. On peut retrouver le chemin spirituel qu'a vécu saint Ignace dans les exercices spirituels, dans ses autres écrits. Et Thérèse d'Avila aussi, elle a écrit donc différents écrits qui rendent compte de son chemin spirituel. Le chemin en particulier, elle évoque les demeures dans lesquelles l'âme passe dans cette intimité avec le Christ, puisque le grand charisme de Thérèse d'Avila, comme saint Ignace des exercices spirituels, elle, c'est l'oraison. Donc les carmélites, elles font 2 heures d'oraison par jour, mais chacun de nous, nous ne pouvons pas nous priver, si nous voulons avoir une vie chrétienne sérieuse, d'un temps d'oraison quotidien. Donc voilà, c'est compliqué de faire 2 heures, puis on n'est pas tous capables de faire 2 heures d'oraison, mais vraiment, nous pourrions vraiment nous dire que 15 minutes par jour, ce serait vraiment certainement nécessaire pour tout chrétien de vivre l'oraison. Qu'est-ce que c'est que l'oraison ? Dans la définition que donne Thérèse d'Avila, c'est le commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Alors ça veut dire que Thérèse, qui a pratiqué l'oraison, nous dit finalement, qu'est-ce que c'est que l'oraison ? C'est un moment donc, qui doit être régulier, quotidien, vraiment si possible, d'une durée qui soit régulière, c'est-à-dire il faut éviter de faire 1 heure d'oraison un jour et puis 5 minutes le lendemain. Il faudrait essayer, si vous souhaitez faire l'oraison, d'essayer d'être régulier dans le temps que vous y donnez, peut-être le lieu aussi. Et en fait, c'est un moment... Comme si vous allez voir, en fait, peut-être une amie ou un ami, vous allez prendre le café, peut-être de temps en temps, je ne sais pas, dans Mayenne, on fait ça un peu, on va boire le café, peut-être on a des petites habitudes. Ben, en fait, c'est ça l'intuition de Thérèse, c'est que le Seigneur est un ami. Et on s'entretient avec un ami qui nous aime, et qu'est-ce qu'on fait un ami ? Avant même de parler, on est content d'être avec lui. Vous voyez ? On est content d'être ensemble. Ben, je pense que quand les gens qu'on aime, vous voyez, vous êtes tous contents d'être avec. Les Italiens, ils disent « essere insieme », non ? Ça veut tout dire. C'est-à-dire, ils sont très chaleureux, les Italiens. Donc, « vivere insieme », non ?« Vivere insieme », « essere insieme », enfin... Donc, être ensemble, en fait. Chez eux, déjà, ça veut tout dire, en fait. Et peut-être, nous aussi, on pourrait se dire, si on aime le Seigneur, ben dites-vous qu'en fait, lui, il attend simplement déjà que vous lui donniez un peu de temps chaque jour pour être avec lui. Comme on vient tenir compagnie à un ami avec qui on va boire un café ou voilà. Eh bien, c'est tout simple, ça. Et donc, elle dit un commerce intime d'amitié. Donc, intime, donc quelque chose d'intime. On est tous les deux, on est heureux d'être ensemble. Un commerce, alors, le mot commerce, ça veut dire un échange. C'est-à-dire, comme vous faites, si vous allez prendre un café, vous vous racontez ce qui s'est passé dans votre semaine, ce qui vous préoccupe, vos sources de joie, de tristesse. Il faut en parler au Seigneur. Vous lui dites, voilà, c'est dur en ce moment, ça, ou ça, voilà ce que j'aimerais bien vivre. Il faut lui dire simplement au Seigneur. Commerce intime d'amitié où l'on s'entretient, souvent seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. C'est quelqu'un qui nous aime et qu'on aime. Donc voilà, ça c'est la définition que Thérèse donne de l'oraison. Alors, quelques mots sur les autres saints, et peut-être aussi, peut-être qu'ils vont plus nous parler, saint François-Xavier et saint Philippe Néri. Là, surtout, on ne peut pas vous raconter toute la vie de tous ces saints, mais j'ai voulu insister sur leur conversion, sur qu'est-ce qui s'est passé qui a pu peut-être favoriser, permettre leur conversion et du coup la nôtre. Parce que l'enjeu du carême, c'est la conversion. Hein. Vraiment, c'est le grand enjeu de notre vie quand même. C'est par la conversion qu'on rentre dans la vie éternelle, qu'on devient vraiment ce pour quoi Dieu nous a fait, qu'on entre dans le royaume de Dieu. Et voyez que la conversion d'Ignace, de Thérèse d'Avila, de ces autres saints, a eu un rayonnement extraordinaire sur les autres. Donc, j'allais dire, si vous ne faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Dites-vous que si vous vous convertissez, eh bien, ça va apporter quelque chose aux autres. Alors, la conversion des... Donc, il y a des choses qui font les conversions. Vous voyez, parfois, c'est la convalescence, la lecture d'un saint, une rencontre, une émotion, va être une étape de conversion. Alors, François-Xavier, 1506-1522, il naît le 7 avril 1506 à Ravière, c'est pour ça qu'il s'appelle Saint-François-Xavier, près de Pampelune, en Navarre. J'ai trouvé intéressant cette date parce que le 7 avril, c'est aussi le jour, 35 ans après, où il va quitter Lisbonne pour partir aux Indes. Il ne va jamais revenir. Et donc, le jour de son anniversaire, ça va être aussi le jour... de son départ en mission. Il va, à l'époque, il n'y avait pas l'avion, hein, bien sûr, vous savez bien, donc il va partir en bateau vers tout le tour de l'Afrique et il va faire étape donc vers la corne de l'Afrique, là où le Mozambique, et il va arriver à Goa, finalement, globalement, en Inde, et de là, il va faire ses voyages missionnaires qui vont être époustouflants de nombre de conversions qu'il va susciter. Mais il a quand même aussi bénéficié donc lui-même de la rencontre avec François-Xavier, parce que donc il était membre d'une famille d'ancienne noblesse basque de Basse-Navarre, donc il va poursuivre des études à la Sorbonne. À l'époque, d'ailleurs, je remarquais, moi, je trouve que quand on regarde les saints du Moyen-Âge ou de cette période de la Renaissance, il y avait énormément... c'était Erasmus avant l'âge, avant l'heure. Hein, parce qu'en fait, ils allaient faire leurs études à la Sorbonne, alors qu'ils étaient espagnols, italiens. Donc, voilà. On n'a pas attendu Erasmus pour qu'il y ait des échanges. Et il y avait des échanges incroyables entre les pays d'Europe, entre les universités d'Europe. Et c'est l'Église qui est à l'origine de la fondation de l'université, hein, de la Sorbonne. Donc, rappelons-nous ça aussi. Et il logeait justement, Saint-François-Xavier, à Paris. Il logeait au collège de la Sainte-Barbe avec Pierre Favre, qui était de son âge. Et en fait, ces deux jeunes gens vont bientôt s'adjoindre un cochambriste de 15 ans leur aîné, Ignace de Loyola. Donc, en fait, ils vont se retrouver dans la même chambre. Ils vont faire de la colocation, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Donc, peut-être dans nos... Voilà, dans nos jeunes enfants, petits-enfants, il y en a qui sont en coloc, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont être en coloc avec un futur Saint Ignace de Loyola ou une Sainte Thérèse d'Avila. Donc les colocations, ça peut aussi, ou le covoiturage, vous ne savez pas où ça peut mener. C'est peut-être un des lieux, peut-être, de la Providence aujourd'hui. Moi, je me dis ça souvent aujourd'hui, comme on a moins... voilà, on partage beaucoup de choses parce qu'on va avoir moins de moyens. On est obligé de serrer la ceinture et de partager. Et en fait, la colocation, le covoiturage ou le co... voilà, tout ce qu'on peut faire ensemble, bah, ça peut être l'occasion de rencontres extraordinaires. Et je ne sais pas si vous êtes des adeptes de Blablacar ou autre, mais il y en a qui le vivent peut-être avec beaucoup de... une chance, opportunité, de peut-être de rencontrer des personnes. Et alors, donc, Saint Ignace de Loyola va être le colloque de Pierre Favre et de François-Xavier. Et ça va être une rencontre providentielle. Parce qu'ils vont se lier d'amitié. Donc ils vont passer de la colocation. Parce que parfois, la colocation, on ne devient pas forcément amis. Parfois, on finit par se taper dessus parce qu'il y a les leftos et les couche-tards et les bordéliques et les maniaques. Ça se passe. L'apprentissage de la vie commune peut être périlleux. Mais en fait, ils vont se lier d'amitié. Et ils vont, ça va faire partie du groupe qui va fonder la Compagnie de Jésus. Et donc l'amitié, voilà. Donc ça peut être aussi vraiment un mot important, l'amitié. Et nous-mêmes, aujourd'hui, peut-être, nous avons ici, là, dans la journée que nous vivons là, peut-être des personnes avec lesquelles, dans le groupe, peut-être que nous allons, avec lequel nous allons partager le repas ou tout à l'heure le jeu, peut-être des amis. Il faut que nous tissions des liens d'amitié. Ça sert à quoi d'essayer de se dire on va réévangéliser les Coëvrons? Si on ne se connaît pas, et comment on peut aimer les gens qu'on ne connaît pas? Donc, le but de cette journée, c'est aussi de faire connaissance. Parce qu'on ne peut pas aimer les gens qu'on ne connaît pas. Oh, Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, ça tombe bien, ce matin, Don Pierre, il a fait une petite blague, il a dit que, on n'était peut-être pas ennemis entre les paroisses des Coëvrons, mais en tout cas, Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Ça ne sert à rien, enfin, on ne peut pas imaginer que les paroisses des Coëvrons vont réévangéliser les Coëvrons si on ne s'aime pas déjà entre nous. Donc entre prêtres et fidèles, prenons le temps de nous connaître. Entre fidèles d'une même paroisse et des paroisses des Coëvrons, on a besoin de passer par là. Ça ne sert à rien, sinon on ne portera aucun témoignage. C'est le deuxième axe que je voulais essayer de vous partager aujourd'hui, c'est la communion. Donc conversion personnelle, mais aussi communion. Parce qu'en fait, la nature de l'Église, c'est d'être une communion. Et c'est en nous voyant nous aimer les uns les autres que les gens vont se dire, ils ont peut-être quelque chose, eux. Ils ont quelque chose. Regardez comment ils se parlent, comment ils sont amis. Mais vraiment. Et en fait, quand on sent que les gens s'aiment, moi, ça m'arrive parfois d'aller dans une famille où je trouve qu'il y a un amour particulier entre les conjoints ou entre les... Bon, vous allez me dire, si vous saviez, après, quand vous avez fermé la porte, vous ne savez pas tout ce qui se passe. Oui, alors c'est vrai qu'en général, on n'est pas pareil quand il y a des étrangers et puis quand on est entre nous. C'est vrai, je crois, dans toutes les familles. Mais, ceci dit, on sent quand il y a un amour particulier. Moi, je me souviens, ça m'avait marqué, dans une famille où j'étais allé préparer un baptême. Et en fait, le monsieur, il avait une sclérose en plaques. Il est décédé, d'ailleurs, depuis, ce jeune papa. Et en fait, son épouse, c'était une jeune maman, donc ils avaient un enfant, oui, un petit garçon. Et j'ai senti, en préparant le baptême, qu'il y avait un amour, parce que ils étaient éprouvés, en fait, hein, mais ça avait fait grandir leur amour. Il y avait un amour conjugal, il y avait une délicatesse. Et je leur avais dit, d'ailleurs, c'est... j'étais un peu touché, le monsieur était en fauteuil roulant, et ça m'avait un peu bouleversé de préparer ce baptême, parce qu'effectivement, le papa est décédé quelque temps, 2-3 ans après, je ne sais plus. Mais... je sentais qu'il y avait plus d'amour. Il y avait un amour plus intense. Et parfois, vous savez, nos épreuves familiales, c'est vrai qu'elles nous font parfois nous décourager ou douter de l'amour de Dieu, mais c'est parfois dans ces moments-là qu'on peut aller plus loin dans l'amour. Dans l'amour les uns pour les autres. Avec nos vieux parents, je peux vous dire que Moi, j'ai ma maman à Lyon qui vit maintenant des difficultés de santé, de dépendance, d'autonomie. Mais il y a des choses qu'on partage qu'on n'avait jamais partagées jusque-là. Elle est un peu plus douce. Voilà, je ne sais pas si elle écoutera ma conférence. Qu'est-ce que je vais prendre, mais. C'est comme ça dans les couples. Mais j'ai énormément reçu de ma maman. Hein, je pourrais faire une conférence dessus. Hein, mais t'es un peu. Un peu pète sec. Voilà. Et en fait, maintenant, je trouve que nos relations se sont adoucies. Et je suis très touché. Parfois, on se dit des petites choses gentilles qu'on ne se disait pas avant. Quoi. Du coup, il y a des choses dans l'amour qui peuvent être vécues, même à des périodes de la vie où. Il ne faut surtout pas se dire que l'âge... Vous voyez, les personnes plus âgées ont... moi, je remarque que... Il faut faire attention, d'ailleurs, parce que ça peut jouer dans l'autre sens. Parfois, on s'enfonce dans ses défauts. Donc, il faut faire attention quand on prend de l'âge. Moi, je pense qu'il faut faire très attention. Parce qu'il y a deux voies, quoi. Soit on s'enfonce dans ses mauvaises habitudes, dans ses travers. Et moi, j'entends des gens qui me disent « Je ne peux plus supporter mon papa ou ma maman, quoi. » j'avais jamais remarqué qu'elle était aussi comme ça, quoi. Mais je vois aussi d'autres rencontres qui sont touchantes parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe. Tout d'un coup, on lâche des mots qu'on n'a jamais dit, peut-être des petits je t'aime ou je te demande pardon, des choses qu'on n'a jamais lâchées. Et donc, il peut se passer des choses magnifiques, en fait, dans les dernières années, voire les derniers jours ou les dernières heures d'une vie familiale. Il ne faut surtout pas les négliger parce qu'en fait, il peut se passer des choses incroyables. Nous, comme prêtres, moi, ça fait 20 ans que je suis prêtre, Don Philippe encore plus. On pourrait tous vous raconter des choses incroyables qui se passent dans une chambre d'hôpital. Il y a des moments, donc il ne faut surtout pas vous dire « Oh, bah, maintenant, j'attends tranquillement. » Il ne faut surtout pas se dire ça. Il faut vous dire « Je mets à profit le temps que Dieu me donne parce qu'il peut se passer des choses incroyables. » Et je voudrais nous encourager à vivre aussi ces temps de communion. Entre nous, parce que c'est des temps privilégiés. Il est 11h15, je dois faire attention, parce qu'il faut respecter le temps de la journée. Et moi, la gestion du temps, c'est un de mes lieux de conversion. Donc, si je veux me convertir, il faut que j'arrête de parler, parce que sinon, je dois faire attention. Mais j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir le reste de la vie de ces saints-là, puisque du coup, je ne vous ai pas parlé beaucoup ni de François-Xavier, ni de Philippe Néri, ni de saint Isidore l'agriculteur. Et là, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche, parce qu'en fait, ça vaut le coup d'aller voir. Saint Isidore... Pourquoi il est visiblement, ça va parler aux agriculteurs, en fait, il ne travaillait pas le dimanche. Il était en prière. Et pendant qu'il priait, il y a des anges qui tenaient la charrue. Leurs bœufs, les bœufs continuaient à... Et donc, son propriétaire, il s'est converti en voyant ça. Parce qu'en fait, les autres agriculteurs étaient jaloux, ils ne comprenaient pas, ils lui en voulaient, etc., de saint Isidore. Et en fait, il respectait le repos dominical et il priait. Et en fait, il est très en vogue dans une certaine région de Bretagne. Une partie d'Espagne, son culte est diffusé en Bretagne, en Franche-Comté et au Tyrol. Et il est très vénéré en Bretagne, dans le diocèse de Quimper et Léon. Eh bien, écoutez, peut-être que quelques-unes des paroles que je vous ai dites pourront vous aider ou stimuler pour la conversion ou la communion. Et là, vous avez un temps de prière personnelle. Donc plutôt, là quand même... un peu de solitude pour réfléchir à vous-même. Vous pouvez aller prier à la basilique, il y a l'adoration, il y a la possibilité de vous confesser. Vous pouvez promener dans les jardins. Vous pouvez peut-être, si vous préférez, revenir un petit peu ici. Il va y avoir quelques témoignages en vidéo qui seront repassés aussi cet après-midi. Et nous nous retrouvons à midi. Alors, on va dire, allez, midi 5, puisque midi pour le jeu des Coëvrons. Découverte des Coëvrons tout à l'heure. Voilà.